Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. On va parler de ce livre autobiographique où vous vous racontez. Mais avant cela, j'aimerais votre regard sur le vote d'hier à l'Assemblée. Que vous inspire-t-il quant à la situation politique du pays ou à sa fracturation apparente?
Ouais. Ce débat a apporté de la clarté là où il pouvait encore y avoir de l'ambiguïté. On a vu au fond que massivement les forces politiques de gauche, de droite et d'ailleurs, en effet, ont condamné l'attitude de la Russie en Ukraine de manière claire et qu'il y a eu deux pôles de résistance. Voilà, d'un côté le Rassemblement National qui s'est réfugié dans l'abstention et dans le vote contre, on a retrouver LFI. Cela veut bien dire que quand il s'agit de penser la France sur la scène internationale, les extrêmes, que ce soit la droite extrême ou la gauche extrême, en fait rêvent de sortir d'une logique européenne. Nous sommes à quelques encablures des élections européennes et là les choses sont claires. Ils rêvent d'autre chose.
Croyez-vous justement que les questions de politique étrangère et ce vote puissent influencer le vote des Français aux prochaines élections européennes ?
Faiblement. Parce que les Français sont comme les autres. Ils considèrent en effet que les enjeux, les questions qui ont trait à la politique étrangère doivent céder le pas devant les préoccupations, j'allais dire nationales, qui sont aujourd'hui bien connues, en particulier l'inflation et puis l'immigration, en effet, qui reste un enjeu national extrêmement important dans la perspective des européennes. Mais les Français, j'allais dire, sont des gens comme les autres, sont des citoyens comme les autres dans tous les pays. On retrouve cette distance par rapport à la politique étrangère.
Pascal Perrineau, vous expliquez dans votre livre, et j'y viens, que pour vous le temps n'est pas scandé par les anniversaires, les fêtes, les mariages, les réunions familiales, mais qu'en fait vous pensez aux élections. C'est votre calendrier, c'est votre comment dire, c'est votre horloge interne. Vous dites, tiens, ça me rappelle les élections et ça vous rappelle pas du tout le mariage de la petite dernière ou du petit dernier, j'en passe et des meilleurs, j'extrapole sur votre vie familiale. Je vous pose cette question parce qu'il y a un changement de génération dans ces élections européennes. On a Marion Maréchal, on a Raphaël Glucksmann, on a évidemment Jordan Bardella, on a Gabriel Attal qui va être un des leaders officieux de cette campagne européenne. Bref, on a des jeunes. Est-ce qu'on tourne une page?
Écoutez, je ne crois pas. Ces jeunes devraient attirer les jeunes. Or, les jeunes sont la catégorie la plus abstentionniste, la tranche la plus abstentionniste dans le cadre de ces élections européennes. Et pourtant, ils ont des attitudes plutôt favorables à la construction européenne. Mais de là à aller déposer un bulletin dans l'urne, il s'agit d'une autre démarche. Donc, on aura certainement un taux d'abstention qui sera un taux d'abstention élevé. Donc, le renouvellement générationnel ne veut pas dire forcément le renouvellement politique. On peut être jeune et parler comme un vieux ou un très vieux.
Est-ce que vous pensez tout de même que quand les jeunes se mobilisent à une élection, ces dernières années, ils ont plutôt tendance à aller vers LFI ou le RN?
Oui, ils vont vers LFI, mais LFI, l'âge du capitaine, vous voyez, est élevé. Jean-Luc Mélenchon n'est pas, j'allais dire, un jeune. Pour le Front National, pour l'instant, devenu Rassemblement National, on a l'impression que Jordan Bardella a fait un peu bouger les lignes et qu'il y a un léger mouvement de mobilisation des jeunes Français vers Jordan Bardella.
Le goût de la politique, c'est le titre de ce parcours de politologue expliqué sur plus de 45 années de travail. Pascal Perrineau, avez-vous songé, vous qui avez étudié l'extrême droite, que cette vie de politologue puisse se terminer par l'entrée de Marine Le Pen à l'Élysée?
Oui, je l'ai écrit. Donc, et je le dis d'ailleurs dans ce livre, en effet, j'ai considéré que c'était une possibilité, qu'il y avait derrière le phénomène Le Pen, le phénomène Front National, Rassemblement National, des logiques à la fois sociales, historiques, des fractures, comme l'on dit aujourd'hui, extrêmement lourdes, qui font que ça n'est pas un phénomène politique passager. Ça n'est pas, j'allais dire, un incendie éphémère. C'est quelque chose qui a commencé lentement dans la société des années 80 et qui n'a cessé de se développer depuis. Et derrière ça, il y a quoi? Simplement, il y a le malaise extrêmement profond de la nation française par rapport à l'ouverture du monde.
Pascal Perrineau, ça fait 30 ans que je vous observe, que je vous regarde parler à la télévision. Je vous ai connu barbu, pas barbu, avec les cheveux bruns et maintenant avec les cheveux blancs. Mais vous prenez pas une ride et c'est ça veut dire aussi que dans vos commentaires, finalement, vous avez toujours cette passion de la vie politique. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, durant toutes ces années, vous vous êtes dit, là, je suis dépassé, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas tel phénomène. Les bras m'en tombent.
Allez, les bras peuvent m'en tomber, en effet, à la suite, quand j'entends certains débats, certaines remarques, certaines attitudes. Mais je ne rêve pas à la réalité. Je le dis là aussi dans ce livre, Le goût de la politique. J'ai un attrait extrêmement faible pour les utopies. J'aime bien penser le monde tel qu'il est, avec ses zones de lumière et ses zones d'ombre. Et parfois, les zones d'ombre dans la vie politique française, en effet, peuvent me porter au moral. Mais à ce moment-là, je me dis, écoute, retire un peu de passion de ta passion personnelle pour l'objet, regarde ça de loin et force-toi de comprendre. Un des pères fondateurs de la science politique, qui était un personnage extrêmement important à Sciences Po, André Siegfried, disait lui aussi, remplacer l'ivresse de l'action par la passion de comprendre. Je me retrouve totalement là-dedans.
André Siegfried, qui était, je crois, spécialiste de l'Allemagne.
Oui, et spécialiste de l'Allemagne, il connaissait très bien, oui.
Ça nous amène des heures sombres, ou des ombres, aux heures sombres. Il y a des tentations aujourd'hui de comparer la situation européenne et la France d'aujourd'hui aux années 30, parce que les crises sociales, parce que les crises économiques, parce que les escalades militaires, stratégiques. Est-ce que vous prenez ce risque-là ?
Non, je ne le prends pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des éléments communs. En effet, les tensions inflationnistes, mais enfin, ça n'a rien à voir avec les tensions inflationnistes qui avaient suivi la crise de 1929. La guerre, oui, mais la guerre est au... En effet, elle est là, elle est présente, mais jusqu'à maintenant, l'Union européenne, l'Alliance Atlantique, l'OTAN fonctionnent plutôt de manière satisfaisante. Dans les années 30, on avait l'impression véritablement qu'un monde se défaisait au plan interne, au plan international. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est dans un monde qui se défait, on est dans un monde qui se recompose. C'est assez différent.
Vous avez passé votre vie le nez dans les enquêtes d'opinion, vous avez fait des articles, etc. Mais les enquêtes d'opinion, notamment menées par le Cevipof année après année, vous ont aidé à tirer le portrait des Français. Et je vais vous poser une question un peu bizarre, mais qui sont les Français ?
Qui sont les Français ? Alors, par rapport à l'objet politique, c'est ceux qui sont le plus de mauvaise humeur, peut-être dans le monde. Il y a quelque chose de caractéristique. Les Français restent intéressés par l'objet politique, mais au fond, ils sont passés d'une politisation positive à une politisation négative. Les Français savent très bien ce qu'ils rejettent, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent. Et c'est ça, la crise de la politique.
Vous avez une explication ? Parce que souvent on dit oui. Les peuples se ressemblent, on est tous pareils. Enfin, ça a été la grande histoire des 40 dernières années. C'est le relativisme, en fait. Et puis on redécouvre l'âme des peuples, les caractères nationaux.
Oui, les caractères nationaux.
Quel est notre caractère ? D'où ça vient, cette mauvaise humeur permanente ? Il y a une explication historique.
Il y a une mauvaise humeur qui s'enracine, en effet, dans un pessimisme français extrêmement profond quant à l'avenir de nos sociétés, quant à l'avenir intergénérationnel, et qui est largement, qui a plusieurs facteurs. On a en particulier un système scolaire qui reste un système extrêmement vertical, où on se pose en s'opposant. On a également une vieille passion, comme disait l'historien François Furet, une vieille passion révolutionnaire. D'ailleurs, qu'on soit à droite ou à gauche, on est persuadé que la politique, ça peut changer radicalement les choses. Non, pas du tout. Ça change aux marges. C'est un mécanisme horloger extrêmement délicat, qu'il faut manier avec précaution. Mais on a cette passion révolutionnaire des lendemains qui chantent. Et forcément, quand on a cette passion, on est perpétuellement déçu.
Pascal Perrineau, invité de la matinale, vous avez passé une grande partie de votre vie à étudier la vie politique au Cevipof ou à Sciences Po. Vous avez enseigné là-bas. Vous êtes président de l'association des anciens Sciences Po. Est-ce que les étudiants ont changé En clair, est-ce que les jeunes étudient de la même façon qu'autrefois ?
Non. Alors là, le changement générationnel est profond. Si vous voulez, pendant des décennies, j'allais dire même pendant des siècles, la formation était articulée autour du livre qu'on vous donnait à lire, du livre qu'on analysait. Aujourd'hui, oui, bien sûr, même à Sciences Po, il y a une crise de la lecture, il y a une information qui est beaucoup plus horizontale. Il y a un rapport au maître. Vous voyez, nous, on parlait de nos maîtres à l'université. Aujourd'hui, c'est un vocable qui a complètement disparu. Très souvent, c'est une génération qui a l'impression qu'elle a assez peu à apprendre de ses aînés. J'allais dire, très bien, c'est ambitieux, mais c'est dangereux.
J'ai un souvenir d'ailleurs, quand dans les couloirs de l'université où j'étudiais à Sciences Po, quand passait un Pascal Perrineau, ou un André Siegfried, ou un Alain Lancelot, ou une Hélène Carrère-Dancausse, on voyait pas, c'était nos Mick Jagger, c'était nos stars, on les vénérait, on disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont la tête farcie de connaissances? C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Beaucoup moins, parce que aussi nous avons changé, nous les universitaires. Les universitaires, ce sont les chercheurs, mais dans bien d'autres secteurs professionnels, c'est la même chose. Il y a une hyper spécialisation. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus pointus, j'allais dire sur des têtes d'épingle, mais ont de moins en moins de choses à dire sur des choses et des thèmes plus larges.
Une dernière question, vous avez 25 ans aujourd'hui, est-ce que vous vous relancez dans les mêmes études ou vous changez de sujet ou d'objet ?
Ah, j'avais une très vieille passion qui était de devenir psychiatre. Et donc, après avoir, au fond, une passion pour le collectif, la politique, c'est le collectif, j'aurais plutôt une passion pour l'individuel et l'envers du décor au plan individuel. J'en parle un petit peu dans le livre. Explorer la psyché, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Pascal Perrineau, Le goût de la politique, c'est paru chez Odile Jacob. Merci d'être venu parler à l'antenne de Radio Classique, évidemment. Évidemment, vous reviendrez aux prochaines élections qui sont votre calendrier intérieur. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno qui nous parle des contrôleurs de la RATP qui ont un intéressement sur les amendes qu'ils établissent s'ils les perçoivent en liquide. Il va nous expliquer ça dans un instant. Et puis nos esprits libres aujourd'hui, Routel Krief et Marc Lambron, Radio Classique.